Le journal Sébastien Legénie, bonjour Sébastien.
Bonjour Ali, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, l'impossible vie des homosexuels au Kenya. La justice va-t-elle abroger aujourd'hui les lois qui criminalisent les rapports entre personnes du même sexe? Une décision très attendue sur tout le continent africain. Reportage à suivre dans les rues de Nairobi. Des jeunes Français qui marchent pour le climat mais qui marchent lentement. Nouvelle journée de manifestation aujourd'hui dans toute l'Europe. Un mouvement qui peine à rassembler dans notre pays. Dernière ligne droite avant le scrutin européen avec un rassemblement national en tête, selon les derniers sondages. Alors qu'est-ce qui n'a pas marché dans la stratégie de campagne de la majorité? Réponse dans ce journal. Dans l'actualité également, la maison mère des magasins Casino placée sous procédure de sauvegarde afin de geler une dette qui inquiète les marchés financiers. Et puis on parlera aussi de la NASA qui envisage d'envoyer une femme sur la Lune en 2024. Et enfin de la sortie du dernier album de Morrissey, le chanteur anglais des Smiths, un pro-Brexit qui cherche peut-être à faire oublier ses positions pas très politiquement correct.
À 7h50, rendez-vous avec deux auteurs réalisateurs. On leur doit l'un des plus grands succès de l'histoire du cinéma français, Intouchable. Leur dernier film est magnifique. Hors Normes sera projeté demain en clôture du Festival de Cannes. Éric Toledano et Olivier Nakache seront nos invités en duplex de Cannes.
France Inter.
Direction le Kenya, Sébastien. Pour commencer, le Kenya où l'homosexualité reste aujourd'hui encore un crime, mais cela pourrait peut-être changer dans les prochaines heures.
C'est un jugement historique, en effet, qui est attendu. Cela fait près d'un an que la justice est censée rendre son avis, à chaque fois reporté. La haute cour kenyane doit se prononcer ce matin sur des textes datant de l'époque coloniale britannique. La loi prévoit une peine de 14 ans de prison en cas de pratique, je cite, contre l'ordre naturel ou indécente. Une loi rarement appliquée, mais qui rend l'existence très difficile pour les gays et les lesbiennes dans ce pays d'Afrique. Alors comment vit-on aujourd'hui son homosexualité au Kenya? C'est le reportage de Charlotte Simonard dans la ville de Nairobi.
John, la trentaine, vient d'un petit village du centre du pays. Il a grandi dans un milieu très religieux. À 25 ans, il parle de son homosexualité à un prêtre.
J'ai dû subir une séance d'exorcisme pendant des heures. Ils prient autour de vous et essaient de vous libérer du démon qui est en vous. Dans leur prêche, les prêtres affirment que Dieu déteste les homosexuels, que les personnes gays iront en enfer et sont séniles.
Terrorisé, il prétend avoir été guéri et se cache pendant des années.
C'est comme ça en Afrique. On ne peut pas aller voir quelqu'un et lui dire qu'il nous plaît et lui proposer un rendez-vous. Ça m'a beaucoup coûté émotionnellement. J'ai longtemps cru que je ne méritais pas de vivre.
Après avoir fui son village, John assume désormais qui il est. Son père le renie depuis. Ernest, lui, n'a jamais parlé de son homosexualité. Il vit des amours cachés et connaît les risques.
Il y a tellement d'exemples autour de moi. Vous rencontrez quelqu'un, il vous emmène chez lui et là, cinq autres personnes vous attendent. Ils vous tendent un piège. Certains sont violés, d'autres maltraités, battus, escroqués. C'est très risqué. Tu dois te contrôler en permanence sans jamais montrer tes émotions. C'est très frustrant.
Devant la justice kényane, John et Ernest sont considérés comme des criminels selon une loi datant de l'époque coloniale. Nairobi, Charlotte Simonard, France Inter.
Ajoutons que l'homosexualité est illégale dans plus de la moitié des pays d'Afrique subsaharienne. En revanche, on a appris ce matin sur un autre continent que Taïwan était devenu le premier pays asiatique à célébrer des mariages homosexuels.
Et puis Sébastien, dans l'actualité aussi, la jeunesse dans la rue pour défendre la planète.
Nouvelle marche pour le climat aujourd'hui dans des centaines de villes européennes, comme un dernier coup de pression avant les élections de dimanche. En Belgique ou en Suède, ces marches ont rassemblé des dizaines de milliers de lycéens ou d'étudiants. Mais en France, la mayonnaise ne prend pas. Explication, Célia Kiyre qui a rencontré des militants convaincus mais peu nombreux.
Sur l'affiche, on appelle à une grève au-delà des jeunes, une grève générale. C'est difficile de toucher vraiment les étudiants.
Un peu dépité, cet étudiant en couleur d'affiche l'admet avec les partiels, le bac, le contexte n'est pas bon. Pas d'assemblée générale massive, aucune fac bloquée, mais des étudiants découragés après les manifestations de l'an dernier contre Parcoursup. Léna est à la Sorbonne.
Beaucoup d'étudiants sont épuisés de ce qui s'est passé l'année dernière. Ça a été quand même assez difficile, il y a eu de la répression policière. Et puis on voit qu'on est face à un gouvernement qui lâchera rien. Même les Belges qui étaient 70 000 à marcher, ils n'ont rien obtenu. La loi climat, elle a été rejetée à l'Assemblée.
D'ailleurs, Léna préfère la désobéissance civile comme les décrochages de portraits d'Emmanuel Macron. Les lycéens, eux, restent plutôt en cours. Raphaël est en seconde au lycée Buffon.
Quand on faisait des marches tous les vendredis, c'était compliqué pour les lycéens d'expliquer à leurs parents que les vendredis, ils ne vont pas en cours. Du coup, c'était vraiment, si on a des parents cool, bah, on peut y aller, mais sinon, on doit rester au lycée, on peut faire que les dates internationales.
De leur côté, les syndicats étudiants comme la FAGE font leur mea culpa. Orlane François.
Je pense que la sensibilisation n'est pas encore assez forte et ça fait pas longtemps qu'on sensibilise vraiment à cette question. Je pense qu'on n'est pas encore assez bon, on va pas encore assez loin sur ce sujet-là en le mettant au centre des préoccupations.
Mais tous veulent croire que ce mouvement de jeunes pour le climat repartira de plus belle à la rentrée. Une marche est déjà prévue le 27 septembre.
Célia Kyré à Paris, début du cortège pour le climat à partir de 13h à l'Opéra. Un autre à la même heure à Strasbourg prendra la direction du Parlement européen. Quand le scrutin européen, justement boudé par les citoyens, recèle des surprises, la surprise vient ce matin des Pays-Bas qui votaient hier. Contrairement aux dernières enquêtes d'opinion, ce n'est pas l'extrême droite mais les travaillistes pro-européens qui devraient arriver en tête avec 18% des votes selon les sondages sortis des urnes. En France, la campagne prend fin ce soir avec les derniers meetings. La liste du président Macron s'est donné rendez-vous à la Mutualité à Paris, là où pour lui tout avait commencé, pour se terminer en victoire. Rien à voir cette fois avec la campagne d'aujourd'hui où le camp présidentiel a multiplié les erreurs, Karine Bécard.
Sans présumer du résultat, la campagne de La République En Marche a probablement été un modèle de ce qu'il faut a priori éviter. D'abord, le choix si peu tactique du directeur de campagne. Stéphane Séjourné est proche d'Emmanuel Macron, est un habitué des coulisses françaises de la vie politique. Jamais il n'avait dirigé de campagne électorale et surtout jamais il n'a été considéré comme un spécialiste de la mécanique bruxelloise. Ensuite, la tête de liste. Là encore, le choix n'a pas été très stratégique. Emmanuel Macron a décidé de miser sur une femme de dossier, Nathalie Loiseau, qui a eu le courage, c'est vrai, d'aller ferrailler. Mais une tête de liste doit savoir faire de la politique, prendre des coups, oser en donner, tout en évitant, si possible, de déraper. Et puis il y a eu le programme, qui s'est fait beaucoup attendre, présenté en mai alors qu'il avait été annoncé pour début février. Au final, le parti macronien pro-européen est apparu insuffisamment préparé et assez mal organisé.
Élection encore avec la très large victoire des nationalistes hindous en Inde. Le BJP de l'actuel Premier ministre Narendra Modi, qui accroît même son score et qui devrait pouvoir gouverner seul sans coalition. Situation rarissime dans ce pays d'1,3 milliard d'habitants.
La suite du journal en Grande-Bretagne maintenant.
Une femme sur la Lune, plutôt en 2024, c'est l'objectif de la NASA, c'est pas grave, qui a présenté hier son calendrier lunaire, un peu comme votre Roland. On sait que Donald Trump a fait du retour sur la Lune une priorité pour l'agence spatiale américaine. Grosse pression sur la NASA quelques mois en juillet des 50 ans des premiers pas de Neil Armstrong. La NASA qui a donc détaillé son programme. Première mission non habitée dès l'année prochaine et premier équipage sur le sol lunaire d'ici 5 ans. Les précisions de Gregory Phillips. 50 years ago,
we pioneered the path to the moon. La fusée SLS, la plus grande de tous les temps, qui amènera cet équipage sur la Lune, n'est pas encore prête, mais la NASA a déjà la bande-annonce hollywoodienne de cette épopée. Et surtout, l'agence spatiale américaine détaille le calendrier du programme Artemis 2020, première mission non habitée autour de la Lune. 2022 environ, mission autour de la Lune avec un équipage à bord de la fusée. Enfin, Artemis, troisième phase, 2024, des astronautes, dont une femme, de retour sur le sol lunaire, 55 ans, après Neil Armstrong et Buzz Aldrin. L'administrateur de la NASA, Jim Bridenstine.
Six missions Apollo se sont posées sur la Lune. 12 personnes en ont foulé le sol. Mais ils ont loupé quelque chose. Ils n'ont pas vu qu'il y avait des centaines de millions de tonnes de glace et d'eau au pôle sud. On veut donc y retourner et mener de nombreuses expériences.
Dans le cadre de ces missions Artemis, la NASA va faire appel à des entreprises privées pour construire notamment la station Gateway qui sera en orbite autour de la Lune et servira de point d'étape aux astronautes ou encore pour l'alunisseur. Mais l'agence spatiale américaine a pris pas mal de retard et elle subit la pression politique de la Maison Blanche pour tenir ce calendrier. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et puis ajoutons au chapitre spatial que la société d'Elon Musk SpaceX a lancé hier les 60 premiers mini-satellites de sa future constellation destinée à fournir un Internet haut débit au monde entier depuis l'espace et qui pourrait un jour compter 12 000 satellites. La France manque-t-elle de corticoïdes, Soluprède et autres prednisone en rupture de stock dans certaines pharmacies? Il y a deux jours, un important chef de service de l'hôpital Saint-Antoine a lancé une pétition adressée à la ministre de la Santé accusant les pouvoirs publics de non-assistance à personne en danger. Il n'y a pas de risque de pénurie, a répondu hier l'agence du médicament. Les Français reconstituent peu à peu leur bas de laine, même si les rendements financiers sont faibles. On a rarement autant épargné. Selon les derniers chiffres de la Fédération française de l'assurance, les Français ont déposé 3,4 milliards d'euros sur les contrats d'assurance vie au mois d'avril, un montant inégalé depuis 2013.
Et on termine le journal Sébastien avec le dernier album d'un mythe du rock anglais des années 80.
Morrissey fait son retour avec California Song, 12e album pour l'ancien chanteur des Smiths. Un album de reprises, du Bob Dylan, du Johnny Mitchell ou encore du Roy Orbison, comme pour apaiser ses fans après plusieurs polémiques politiques. Mathieu Culeron. Whisper secrets to the
wind. Pour son retour, le chanteur de The Smiths a choisi de revisiter des auteurs qui lui tiennent à cœur, de Roy Orbison à Bob Dylan, avec cette reprise notamment de Only a Pawn in Their Game. A bullet from the back of the bush took Mega Ever's blood. Cette reprise de Dylan parle de l'assassinat d'un militant noir pour les droits civiques, Medgar Evers, dans les années 60. Un choix qui intervient après de nombreux rapprochements idéologiques entre Morrissey et la droite anglaise depuis une dizaine d'années, après avoir soutenu le Brexit de Nigel Farage ou encore reproché au maire de Londres, Sadiq Khan, de ne pas parler correctement l'anglais. Morrissey se paye même la collaboration du chanteur de Green Day, lui très engagé à gauche, Billy Joe Armstrong, sur cette chanson. Morrissey tente-t-il de brouiller les pistes de son engagement politique ? Toujours est-il que sa voix demeure intacte, une voix devenue culte depuis le milieu des années 80. But please understand you're running out of time. For these
are the days of decision. Bon, le dernier album de Morrissey, California Song, validé par le service culturel de France Inter.
Merci Sébastien Legénie.